12. La lumière qui coule à travers la petite fenêtre grillagée est grise, et par conséquent elle lui fait la peau grise. Il a aussi les mains sales et couvertes d'égratignures. Le résidu sous certains de ses ongles est noir, crasse, et sous d'autres, marron, sans sécher. Il se rappelle vaguement s'être battu avec quelqu'un qui n'arrêtait pas de lui donner du monsieur. Aussi en déduit-il qu'il est là en vertu du fameux article 48 du code pénal, voie de fait sur agent. Tout ce qu'il voulait, et ça Callahan se le rappelle un peu mieux, c'était essayer le képi du gamin qui était vraiment épatant. Il se souvient d'avoir tenté de convaincre le jeune flic. Avoir la tête de celui-là, bientôt ils vont aller les recruter à la sortie de l'école, ou même à la crèche, du moins à Topeka. Qu'il est toujours à la recherche de nouveaux chapeaux qui en jettent, qu'il porte toujours une casquette parce qu'il a la marque de Cain sur le front. « Ça ressemble à une croix !» se rappelle-t-il avoir dit ou avoir essayé de dire. « Mais en fait, c'est la Marlagain !» Ce qui, dans son charabia d'ivrogne, est ce qu'il y a de plus proche de Marc de Cain. Il était vraiment bourré ce soir-là. Pourtant, assis là sur la couchette, il se sent pas si mal que ça, en passant la main dans ses cheveux fous. Il n'a pas un goût très agréable dans la bouche. Un peu comme si Rota, la chatte siamoise, était venue y chier, pour dire la vérité, mais sa tête ne lui fait pas trop mal. Si seulement les voix voulaient bien se taire. Au bout du couloir, quelqu'un est en train d'égrener une liste interminable de noms dans l'ordre alphabétique. Plus près de lui, quelqu'un chante sa chanson préférée. Quelqu'un m'a sauvé la vie ce soir. Naylor, Norton, O'Connor, O'Shaughnessy, Oskowski, Asmer. C'est à ce moment-là qu'il comprend que c'est lui qui est en train de chanter. Quand le tremblement lui remonte le long du mollet, il remonte jusqu'aux genoux, puis dans les cuisses, gagnant en intensité. Il voit les plus gros muscles de ses jambes sursauter comme des pistons. Qu'est-ce qui lui arrive ? Palmer ! Palmgren ! Le tremblement lui atteint l'entrejambe et le bas-ventre. Ses sous-vêtements s'assombrissent quand il sent la pisse les imprégner. Et en même temps, ses pieds se mettent à battre dans l'air comme pour shooter dans des ballons de football invisibles. « Je fais une crise cardiaque, se dit-il. Ça doit être ça. Je suis en train de partir. Salut les amis. » Il essaie d'appeler à l'aide et rien ne sort de sa bouche, mis à part un halètement rauque. Ses bras s'agitent soudain dans tous les sens. Maintenant, il shoote dans des ballons de foot avec les pieds, pendant qu'avec les bras, il hurle « Alléluia !» Et ce type dans le couloir va continuer comme ça jusqu'à la fin du siècle, peut-être même jusqu'à la prochaine ère glaciaire. « Pesker, Peters, Pike, Pollowick, Rance, Runcourt !» Le haut du corps de Callahan commence à se balancer violemment d'avant en arrière. Quand il penche vers l'avant, il est à deux doigts de perdre l'équilibre et de tomber par terre. Ses mains bondissent vers le haut, ses pieds s'envolent. Soudain, il sent comme une crêpe chaude en train de s'étaler sous ses fesses. Et il comprend qu'il vient de lâcher le chocolat. « Icapero, Robillard, Rossi !» Il bascule vers l'arrière, directement dans le mur de béton blanchi, où quelqu'un a inscrit « Bango Skunk » et « Je viens de faire ma 19e dépression nerveuse. » Puis vers l'avant, cette fois c'est tout le corps qui s'y met, avec l'enthousiasme d'un musulman à l'heure de la prière. Pendant quelques instants, il contemple le sol en ciment entre ses genoux nus, puis il bascule de nouveau et se retrouve face contre terre. Sa mâchoire, qui a quand même cicatrisé en dépit de ses beuveries nocturnes, se recasse en 3 des 4 points de fracture. Mais, juste histoire de bien rééquilibrer les choses, 4 étant le nombre magique, cette fois-ci, il se casse aussi le nez. Il se retrouve allongé sur le sol, à se convulser comme un poisson hors de l'eau, en train d'étaler sur le sol un mélange de sang, de merde et de pisse. Je suis en train d'y passer, il se dit. Ryan, Sonelli, Scare. Mais progressivement, cet incroyable grand mâle qui lui secoue tout le corps se transforme en petit mâle, puis en simple soubresaut. Il se dit qu'il va venir quelqu'un, mais il reste seul, du moins au début. les soubresauts s'arrêtent, et il n'est plus que Donald Frank Callahan, étalé sur le sol d'une cellule à Topeka, au Kansas, où, un peu plus bas dans le couloir, un homme continue d'énumérer tout l'alphabet. « Savvy, Sharrow, Schatzer !» Tout à coup, pour la première fois depuis des mois, il se rappelle comment la cavalerie a débarqué au moment où les frères Hitler étaient sur le point de le trucider dans cette laverie désaffectée sur la 40e Est. Et ils allaient réellement le faire. Le lendemain ou le surlendemain, on n'aurait retrouvé qu'un certain Donald Frank Callahan, mort comme le maquereau légendaire avec probablement ses couilles en guise de boucle d'oreille. Mais la cavalerie est arrivée et... Sauf que c'était pas la cavalerie, se dit-il, allongé sur le sol, le visage à nouveau en train d'enfler. « Bonjour, nouvelle tête, tu ressembles vachement à la vieille tête. » C'était la voix numéro 1 et la voix numéro 2. Sauf que ça non plus, ça colle pas. C'était deux hommes dans la quarantaine au moins, peut-être même ayant déjà basculé de l'autre côté. C'était M. Ex Libris et M. Guy Cockney Fenium, quel que soit le sens de tout ce charabia, et morts de peur, tous les deux, et avec des raisons d'avoir peur. Les frères Hitler n'en avaient peut-être pas défiguré 1000 comme le prétendait Lenny, mais ils en avaient mutilé pas mal, et tué aussi. Et c'était une bonne paire de vipères. Et oui, M. Ex Libris et M. Gay Cockniff avaient absolument toutes les raisons d'avoir peur. Ça s'était bien fini pour eux, mais ça aurait pu mal se passer. Et si George et Lenny avaient retourné la situation? Eh bien, au lieu de trouver un cadavre dans la laverie de la baie de la Tortue, ceux qui seraient arrivés là les premiers en auraient trouvé 3. L'histoire aurait fait la première page du poste, ça c'est sûr. Mais ces gars avaient risqué leur vie. Et voilà pourquoi ils l'avaient risqué, 6 ou 8 mois plus tard. Pour un connard d'ivrogne sale et émacié aux sous-vêtements trempés de pisse d'un côté et dégoulinant de merde de l'autre. Buveur le jour, poivre la nuit. Et c'est là que ça se produit. Dans le couloir, la voix qui récite est arrivée à Sprang, Stewart et Sudby. Dans cette cellule, un homme allongé sur le sol sale, dans la longue lumière de l'aube, touche finalement le fond, qui est par définition le point en dessous duquel on ne peut pas descendre, sauf à trouver une pelle et à se mettre à creuser. De là où il est, allongé là et le regard glissant sur le sol, les moutons de poussière ressemblent à des bouquets d'arbres fantomatiques et les tas de crasse à des collines dans un paysage minier et désertique. Il se dit « On est en quoi ? Février ? Février 1982 ? Quelque chose comme ça ? Eh bien, je vais te dire, je me donne un an pour essayer de me ressaisir et tout mettre au propre. Une année pour essayer de faire quelque chose, n'importe quoi. » pour justifier le risque que ces deux gars ont pris. Si je peux faire quelque chose, je continuerai. Mais si en février 1983, je bois toujours, je me tuerai. En bas du couloir, la voie est finalement arrivée à Tagenfield. 13. Callahan se tue pendant un moment. Il but une gorgée de café, grimaça, se versa une rasade de cidre à la place. Je savais comment amorcer la remontée. Dieu sait que j'avais connu assez d'ivrognes ayant touché le fond dans les réunions des AA dans l'East Side. Alors quand ils m'ont laissé sortir, j'ai trouvé l'adresse des AA à Topeka, et j'y suis allé tous les jours. Je ne regardais ni en avant, ni en arrière. Le passé, c'est de l'histoire ancienne, et l'avenir, c'est le mystère, ils disent. Sauf que cette fois, au lieu de m'asseoir au fond de la pièce et de ne rien dire, je me suis forcé à me placer au premier rang, et pendant les présentations à dire « Je m'appelle Don C, et je veux m'arrêter de boire. » Je le voulais, vraiment, je le voulais, chaque jour. Mais les AA ont des dictons pour tout. Et l'un d'eux est « Fais semblant jusqu'au jour où tu y arriveras. » Et petit à petit, j'y suis arrivé. Je me suis réveillé un jour de l'automne 1982 et je me suis rendu compte que je ne voulais vraiment plus boire. La compulsion, comme ils disent, avait disparu. J'ai changé de décor. Durant la première année de sobriété, on n'est pas censé procéder à des changements radicaux dans sa vie. Mais un jour, alors que j'étais dans Cage Park, dans la roseraie Rheinisch, en fait, il laisse sa voix se perdre, le regard posé sur eux. « Quoi ? Vous connaissez cet endroit ? Ne me dites pas que vous connaissez le Rheinisch. »
On y est allé, dit Susanna d'un ton calme. On a vu le train miniature.
Voilà qui est incroyable, dit Callahan.
Il est 19 heures et tous les oiseaux chantent, dit Eddie.
Il ne souriait pas. Quoi qu'il en soit, c'est dans la roseraie que j'ai repéré la première affichette. Nous recherchons Callahan, notre setter irlandais. Cicatrice sur la patte, cicatrice sur le front, grosse récompense, etc., etc. Ils avaient fini par trouver mon nom. J'ai décidé qu'il était temps de changer de décor tant que je le pouvais encore. Alors je me suis rendu à Détroit et j'ai trouvé un foyer d'hébergement appelé le Refuge du Phare. C'était un refuge alcoolisé. En fait, c'était comme le foyer, mais sans Rowan McGruder. Ils faisaient du bon boulot là-bas, mais ils avaient du mal à garder la tête hors de l'eau. Je me suis inscrit, et c'est là que je me trouvais en décembre 1983, quand ça s'est produit.
« Quand quoi s'est produit ?» demanda Suzanne.
C'est Jake Chambers qui répondit. Il savait, et peut-être était-il le seul parmi eux à être en mesure de savoir. Après tout, ça lui était arrivé aussi.
« C'est là que vous êtes mort, » fit Jake.
« Oui, c'est exact. »
Callahan ne fit preuve d'aucune surprise. Comme s'ils étaient en train de discuter de la culture du riz ou de déterminer si Andy marchait bien à l'énergie fantomatique.
« C'est là que je suis mort. » « Roland, je me demandais si vous voudriez bien brûler une cigarette. » Il semble que j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus fort que du cidre de pomme.
14. Il y a une vieille tradition au phare, une tradition qui remonte à... Eh bien, à 4 ans. Il faut dire que le refuge du phare n'est en activité que depuis 5 ans. C'est de célébrer Thanksgiving dans le gymnase du lycée du Saint-Esprit dans West Congress Street. Un petit groupe de pensionnaires décore la salle avec du papier crépon orange et marron, des dindes en carton, des fruits et des légumes en plastique. Les amulettes de la moisson à l'américaine, en somme. Il fallait avoir au moins 2 semaines de sobriété continue derrière soi pour pouvoir postuler à cette tâche. Et aussi, et c'est une chose dont sont convenus entre Ward Huckman, Al McGowan et Don Callahan, aucun cerveau noyé n'est admis au stand decoration, peu importe depuis combien de temps il est sobre. Le jour de la dinde, presque une centaine de ce que Détroit fait de mieux en matière d'alcoolo, de toxico et de sans-abri à moitié fou se réunit au Saint-Esprit pour un merveilleux dîner à base de dinde, de patates et de toutes les garnitures traditionnelles. Ils sont assis autour d'une 12aine de tables au centre d'un terrain de basket. Les pieds de table ont été enveloppés de feutrines et les convives sont en chaussettes. Avant d'attaquer, c'est la tradition, on fait rapidement un tour de table. Si ça prend plus de 6 secondes, les gars, je vous coupe les vivres, les a prévenus Al. Et chacun cite une chose qui lui inspire de la reconnaissance. Parce que c'est Thanksgiving, le jour des actions de grâce, mais aussi parce que l'un des principes du programme des AA, c'est qu'un alcoolique reconnaissant ne va pas se saouler et qu'un drogué reconnaissant ne va pas se piquer. Ça va vite. Et comme Callahan est assis là, sans penser à quelque chose en particulier, quand son tour arrive, il lâche une phrase qui aurait bien pu lui attirer des ennuis. Au minimum, on l'aurait pris pour un type avec un sens de l'humour douteux. « Je suis reconnaissant de ne pas avoir... » commence-t-il, puis il se rend compte de ce qu'il était sur le point de dire et le retient de justesse. Ils les regardent tous dans la tente, ces hommes avec leurs barbes de plusieurs jours, ces femmes bouffies et pâles aux cheveux plats, tous imprégnés de cette odeur de station de métro sale, l'odeur de la rue. Certains l'appellent déjà paternel. Mais comment le savent-ils? Comment pourraient-ils le savoir? Et que dirait-il s'il savait le frisson qu'il parcourt quand il entend ce surnom? À quel point il lui rappelle les frères Hitler et l'odeur douce et enfantine de l'adoucissant? Mais il les regarde tous. Les clients, Ward et Hal, le regardent eux aussi. « Je suis reconnaissant de ne pas avoir touché à l'alcool et à la drogue aujourd'hui, » dit-il, se raccrochant in extremis au bon vieux classique de la maison. Il y a toujours une raison de se sentir reconnaissant. Il entend le murmure de leur approbation, puis le voisin de Callahan dit qu'il est reconnaissant envers sa sœur de l'avoir invité pour Noël, et personne ne soupçonne que Callahan était à deux doigts de dire « Je suis reconnaissant de ne pas avoir vu de vampire de type 3 ou d'avis de recherche pour animaux perdus récemment. » Il pense que c'est parce que Dieu a accepté de le reprendre, du moins à l'essai, et que le pouvoir de la morsure de Barlow a enfin été annihilé. Il pense qu'il a perdu la malédiction de la vision, en d'autres termes. Il ne met pas cette hypothèse à l'épreuve en essayant de pénétrer dans une église, par exemple. Le gymnase du Saint-Esprit, c'est largement assez pour lui. Merci. La pensée ne l'effleure même pas, du moins consciemment, qu'ils sont en train de s'assurer que le filet se resserre comme il faut autour de lui cette fois-ci. Ils sont peut-être longs à la détente, comme Callahan finira par le comprendre, mais ils finissent par apprendre et ne renoncent pas facilement. Puis, au début du mois de décembre, Ward Huckman reçoit une lettre de rêve. « C'est Noël avant l'heure, Don! Attends de voir ça !» lance-t-il en agitant la lettre d'un air triomphal. « Si on la joue fine, les gars, les soucis pour l'année prochaine, envolés !» Al McGowan lui prend la lettre des mains et au fur et à mesure de sa lecture, son expression de réserve et de concentration s'évanouit peu à peu. Lorsqu'il fait passer la lettre à Don, c'est avec un sourire jusqu'aux oreilles. La lettre provient d'une firme avec des filiales à New York, Chicago, Détroit, Denver, Los Angeles et San Francisco. Elle est imprimée sur du vélin tellement luxueux qu'on aurait envie de se tailler une chemise dedans, rien que pour le sentir contre sa peau. Elle dit que la firme projette de faire don de 20 millions de dollars à 20 organisations caritatives à travers les États-Unis à raison d'un million à chacune. Elle dit également que cette transaction doit se faire avant la fin de l'année civile 1983. Les bénéficiaires potentiels comprennent des services de distribution de repas, des refuges pour sans-abri, deux cliniques pour les indigents et un programme expérimental contre le sida à Spokane. Le phare fait partie des foyers sélectionnés. La lettre porte la signature d'un certain Richard P. Serre, vice-président exécutif à Détroit. Tout a l'air en ordre, et le fait qu'ils soient tous les trois invités dans les bureaux de Détroit pour discuter de leurs cadeaux semble aussi réglo. La date du rendez-vous pour Callahan de son rendez-vous avec la mort est fixé le 19 décembre 1983, un lundi. La lettre porte l'entête de la Sombra Corporation.
15. Et vous y êtes allé ? Dit Roland.
Nous y sommes tous allés, précisa Callahan. Si l'invitation s'était adressée à moi seul, je ne l'aurais pas fait. Mais puisqu'il nous convoquait tous les trois et qu'il disait vouloir nous donner un million de dollars, vous avez la moindre idée de ce que représente un million de dollars pour une boîte toujours à deux doigts de fermer boutique comme le foyer ou le phare, surtout en plein milieu des années Reagan.
Susanna sursauta en entendant ce nom. Eddie lui lança un regard ouvertement triomphal. Callahan eut visiblement très envie de demander la raison de cet aparté, mais Roland lui fit son petit geste d'impatience. Et cette fois, il se faisait vraiment tard, presque minuit. Pourtant, aucun membre du quatet de Roland n'avait l'air de s'endormir. Tous étaient concentrés sur le père Callahan, pendu à ses moindres paroles.
Avec le recul, voilà ce que je crois,
reprit Callahan en se penchant vers l'avant.
Il y a une sorte de pacte d'association entre les vampires et les ignobles. Je crois qu'en remontant assez loin, on trouverait l'origine de cette association dans la Terre des Ténèbres, à Tonnefoudre.
Ça ne fait aucun doute, confirma Roland, et ses yeux bleus scintillaient dans sa figure pâle et fatiguée.
Les vampires, sauf les types 1, sont stupides. Les ignobles sont plus malins, mais pas tant que ça. Sinon, je n'aurais pas pu leur échapper aussi longtemps, et puis quelqu'un a fini par s'intéresser à mon cas. Un agent du roi cramoisi, je dirais. On a écarté les ignobles de mon chemin, ainsi que les vampires. Au cours des derniers mois, je n'avais plus vu d'affichettes ou de messages à la craie sur les trottoirs de Westford Street ou de Jefferson Avenue. Quelqu'un a pris les commandes, voilà ce que je me suis dit. Quelqu'un de beaucoup plus malin. Et $1 million.
Il secoua la tête et un pâle sourire d'amertume se dessina sur ses lèvres.
C'est ce qui m'a aveuglé, en fin de compte. L'argent, rien que l'argent. Oh, ouais, mais c'est pour une bonne cause.
Je me répétais ça. Et on se la répétait les uns aux autres, bien sûr.
Cette somme nous rendra indépendants pendant au moins 5 ans. Plus besoin d'aller mendier au conseil municipal de Détroit, le chapeau à la main.
Bien sûr. Il ne m'est venu à l'idée que plus tard qu'il y avait une autre vérité derrière tout ça. Une vérité toute simple.
L'appât du gain, même pour une bonne cause, reste l'appât du gain.
Que s'est-il passé ? Demanda Eddie.
Eh bien, nous avons honoré notre rendez-vous,
répondit le père, un sourire effroyable aux lèvres.
Au Tishman Building, situé au 982 de Michigan Avenue, l'une des adresses les plus prestigieuses du coin, le 19 décembre, à 16h20.
Drôle d'heure pour un rendez-vous, fit remarquer Suzanne.
C'est aussi ce qu'on s'est dit, mais qui s'embarrasse de ce genre de broutille quand il y a $1 million en jeu ? Après une longue discussion, nous avons fini par tomber d'accord avec Al, ou plutôt avec la mère d'Al. Selon elle, il fallait se présenter à tout rendez-vous important avec 5 minutes d'avance, ni plus ni moins. Aussi, nous sommes-nous retrouvés dans le hall du Tishman Building à 16h10, tiré à 4 épingles. Nous avons trouvé la Sombra Corporation sur le tableau de l'entrée et nous sommes montés au 33e étage.
Vous aviez fait des recherches sur cette compagnie ? Demanda Eddie. Callahan le regarda d'un air de dire « D'après toi ?»
Selon les informations dénichées à la bibliothèque, la Sombra était une société à nombre d'actionnaires limités, pas de cotation en bourse en d'autres termes, dont l'activité principale consistait à racheter d'autres compagnies. Ils étaient spécialisés dans la haute technologie, l'immobilier et le bâtiment. C'était apparemment tout ce qu'il y avait à savoir. Le capital était visiblement un secret bien gardé.
Le siège était aux États-Unis ? Demanda Suzanne.
Non, à Nassau, aux Bahamas.
Eddie sursauta, se remémorant l'époque où il faisait le passeur de cocaïne et la chose au teint cireux à laquelle il avait acheté son dernier chargement de poudre. « J'y suis allé, » fit-il. « Mais je n'ai vu personne de la Sombra Corporation. Mais en était-il bien certain ? Et si la chose au teint cireux avec son accent british travaillait en fait pour la Sombra ? Était-il tellement inconcevable qu'il soit impliqué dans le trafic de drogue en plus de leurs autres affaires ? Eddie pensait que non. Ça supposait au moins un lien avec Enrico Balassar.
Quoi qu'il en soit, ils nous ont sorti tous les registres et les livres de comptes annuels, poursuivit Callahan. Des comptes obscurs, mais des comptes noirs sur blanc et des gros chiffres. Je ne sais pas ce que fait la Sombra au juste, et je suis presque convaincu que la plupart des employés que nous avons croisés dans leur bureau étaient des figurants en costume et tout. On a pris l'ascenseur. La réception était superbe, avec tableau d'impressionniste français au mur, bien entendu, et la réceptionniste elle-même se fondait bien dans le décor. C'était le genre de femme, pardon, Suzanne, dont vous vous dites quand vous êtes un homme que si vous avez la chance de toucher ses seins, vous aurez la vie éternelle. Eddie éclata de rire, lança un regard de côté à Suzanne, puis s'arrêta instantanément. Il était 16h17. On nous a invités à nous asseoir, ce qu'on a fait. On était extrêmement nerveux. Les gens allaient et venaient. De temps en temps, une porte s'ouvrait à notre gauche et on apercevait tout un étage rempli de bureaux et de box de travail. Des téléphones sonnaient, des secrétaires traversaient la pièce avec des dossiers dans les mains et il y avait en bruit de fond le ronronnement d'une grosse photocopieuse. S'il s'agissait d'un piège, et je pense que c'était le cas, c'était aussi bien agencé qu'un film de Hollywood. J'étais un peu anxieux à cause du rendez-vous avec M. Serre, mais pas plus que ça. C'était extraordinaire quand même. J'étais plus ou moins tout le temps en cavale depuis le jour où j'avais quitté Salem Slot, 8 ans auparavant, et j'avais développé un système d'alarme plutôt performant. Pourtant, il n'a rien fait de plus que gazouiller ce jour-là. Si on pouvait joindre John Dillinger par le biais d'une planche Ouija, il dirait grosso modo la même chose de sa soirée au cinéma avec Anna Sage. À 16h19, un jeune homme en chemise rayée et cravate, qui avait l'air d'un mannequin Hugo Boss, est venu nous chercher. On nous a fait dévaler un couloir devant des bureaux très classe, avec dans chacun un jeune cadre très classe qui travaillait d'arrache-pied, pour ce que j'ai pu en voir, et on est arrivé à la double porte au bout du couloir. Dessus, une plaque indiquait « salle de conférence ». Notre guide a ouvert la porte. Il a dit « Dieu le Père vous attend, messieurs ». Je me rappelle très clairement, il a dit « Dieu le Père ». Et c'est à ce moment-là que mes alarmes périphériques se sont déclenchées. Mais alors, il était déjà bien trop tard. C'est allé très vite, vous voyez. Et non pas... 16. Tout va très vite. Ils sont après Callahan depuis bien longtemps, mais là, ils ne perdent pas de temps à exulter de triomphe. La porte claque derrière eux, beaucoup trop fort, assez fort pour faire trembler les montants. Les jeunes cadres qui commencent à 18 000 $ par an savent fermer les portes d'une certaine manière, avec du respect pour l'argent et le pouvoir. Et là, c'est différent. Là, on dirait que c'est un poivron en colère ou un camé en manque qui vient de faire claquer cette porte. Ou un dingue, bien sûr. Les dingues sont les meilleurs claqueurs de porte, toutes catégories confondues. Le système d'alarme de Callahan hurle maintenant tout ce qu'il sait, et quand il balaie du regard la salle de conférence avec sa gigantesque baie vitrée qui offre une vue fantastique sur le lac Michigan, il constate qu'il a toutes les raisons de s'affoler. Et il se dit... « Mon Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu, comment j'ai pu être aussi stupide ?» Il voit 13 personnes dans la pièce. 3 d'entre elles sont des ignobles. Et c'est la première fois qu'il les voit de près, avec leurs gros visages à l'air maladif, leurs yeux rouges qui brillent et leurs lèvres épaisses, féminines. Tous les 3 fument. Les 9 suivants sont des types 3. La 3e personne présente dans la salle de conférence porte une chemise criarde avec une cravate qui jure complètement la vraie panoplie d'ignobles. Pas de doute, mais il a un visage maigre et rusé, plein d'intelligence et d'humour noir. Il a sur le front un cercle de sang rouge, mais qui n'a l'air ni de couler ni de se coaguler. On entend un crépitement violent. Callahan fait volte-face et voit Al et Ward s'effondrer.
De part et d'autre de la porte par laquelle ils sont entrés se tiennent les numéros 14 et 15, un ignoble et une ignoble, avec en main des matraques électriques. « Vos amis vont s'en tirer, père Callahan. » Il se retourne à nouveau. C'est l'homme au front marqué du cercle de sang. Il doit avoir une soixantaine d'années, mais c'est difficile à évaluer. Il porte une chemise jaune, très chargée, et une cravate rouge. Lorsqu'un sourire anime ses lèvres fines, il découvre une rangée de dents en pointe. « C'est Sarah, » se dit Callahan. Sarah ou le type qui a signé cette lettre, quel que soit son nom. C'est lui qui a inventé cette histoire.
Vous, non. En revanche, ajoute-t-il.
Les ignobles l'observent avec une sorte d'avidité. Le voilà enfin, leur clé barre perdue avec sa patte brûlée et sa cicatrice au front. Les vampires ont l'air plus intéressés. Il les voit presque trépigner dans leur aura bleue. Et tout à coup, Callahan entend le carillon. Faiblement, un peu assourdi, mais le carillon tout de même, qui l'appelle. Sarah, si c'est bien son nom, se tourne vers les vampires.
« C'est bien lui, » dit-il d'un ton neutre. « Il a tué des centaines de vos semblables dans une douzaine de versions de l'Amérique. » Mes amis que voilà, et d'un geste il désigne les ignobles, se sont montrés incapables de le localiser, mais bien entendu, ils ont l'habitude de traquer des proies moins suspicieuses d'ordinaire. Quoi qu'il en soit, il est bien là. Allez-y, il est à vous, mais ne le tuez pas.
Il se tourne vers Callahan. Le trou dans son front se remplit et se met à briller, mais sans jamais couler. « C'est un œil, » se dit Callahan, « un œil de sang qui regarde de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il regarde? Et où se cache cette chose ?»
Sarah dit, « Tous ses amis proches du roi sont porteurs du virus du sida. Vous savez sans doute de quoi je parle? C'est ça qui vous tuera, nous y veillerons. » Qui vous mettra hors de course pour toujours dans ce monde et dans tous les autres. Ce n'est pas un endroit pour un type de votre espèce de toute façon, pour un faux prêtre comme vous.
Callahan n'hésite pas une seconde. S'il hésite, il sera perdu. Ce n'est pas du sida qu'il a peur, mais de les laisser poser leurs lèvres immondes sur lui, de les laisser l'embrasser comme il a vu l'autre embrasser Lupe Delgado dans la ruelle. Il ne doit pas les laisser gagner. Après tout, ce chemin parcouru, tous ces boulots, toutes ces cellules de prison après avoir réussi à devenir sobre au Kansas, il ne peut pas les laisser gagner.
Il n'essaie pas de déraisonner, toute palabre est impossible. Il se précipite juste derrière l'énorme table en acajou qui trône au milieu de la pièce. L'homme à la chemise jaune, soudain alerté, se met à hurler « Attrapez-le ! Attrapez-le !» Des mains claquent sur sa veste, qu'il a spécialement achetée chez Grand River, vêtements pour hommes, mais il les esquive. Il a le temps de se dire, la fenêtre ne lâchera pas. Elle est en verre renforcé, du verre anti-suicide, et elle ne se cassera pas. Et il a juste le temps d'implorer Dieu pour la première fois depuis que Barlow l'a forcé à boire son sang empoisonné.
« Aidez-moi ! Je vous en supplie ! Aidez-moi ! »
crie le père Callahan. Et il fonce contre la vitre, épaule la première. Une main lui gifle la tête, essaie de le saisir par les cheveux, puis le relâche. Tout autour de lui, la vitre explose, et il se retrouve soudain debout dans l'air froid, entouré de rafales de neige. Il regarde en bas, derrière ses chaussures noires qu'il a aussi achetées pour l'occasion, et il voit Michigan Avenue, avec ses voitures qui ressemblent à des jouets, et ses piétons qui ressemblent à des fourmis. Il les sent. Sarah et ses ignobles et ses vampires qui étaient censés l'infecter et le mettre hors course pour toujours, il les sent agglutinés autour de la vitre brisée, le regard incrédule. Il se dit « Voilà qui me met effectivement hors course, pas vrai ?» Et il se dit avec l'émerveillement d'un enfant
« C'est la dernière pensée que j'aurai jamais.
c'est leur voir. Et ils tombent.
17. Callahan s'interrompit et jeta un regard à Jake, presque timidement.
Tu t'en souviens? Je veux dire, du moment... Il s'éclaircit la gorge. Du moment de la mort?
Jake hocha gravement la tête.
Pas vous?
Je me souviens d'avoir regardé Michigan Avenue entre mes chaussures neuves. Je me rappelle la sensation d'être debout, là, au milieu des bourrasques de neige. Je me rappelle Serre derrière moi qui braillait dans une autre langue, qui jurait des mots aussi gutturaux ne pouvaient être que des jurons. Et je me rappelle m'être dit, il a peur. Et ça a été ma toute dernière pensée que Serre avait peur. Puis il y eut un intervalle d'obscurité. Je flottais. J'entendais le carillon, mais au loin. Puis le son s'est rapproché, comme si un engin à moteur me fonçait dessus à toute vitesse. Il y eut de la lumière. J'ai vu de la lumière dans les ténèbres. J'ai cru que je vivais une expérience de décorporation, comme Kluber Ross. Alors, je suis allé vers la lumière. Je me moquais de là où j'atterrirais du moment que c'était pas sur le bitume de Michigan Avenue, écrabouillé et sanguinolent, avec une foule réunie autour de moi. Mais je ne voyais pas comment ça pouvait arriver. On ne tombe pas de 33 étages pour reprendre conscience ensuite. Et puis, je voulais échapper au carillon, il devenait de plus en plus fort. Mes yeux se sont mis à pleurer, j'avais les oreilles en feu. J'étais heureux d'avoir encore des yeux et des oreilles, mais le carillon rendait cette gratitude très accessoire. Je me suis dit, il faut que tu ailles vers la lumière. Et j'ai plongé. J'ai